Hey, bienvenue à l'émission On en jase sur Boulevard 102.1, ton émission d'actualité du midi. Ça nous fait toujours un bonheur de le faire avec vous. Il est présentement midi 2, journée maussade à la météo. 10 degrés de la pluie. C'est la vie, ça arrive. Demain, 9 degrés, seulement 30 % de possibilité d'averse. Aujourd'hui, reste encore un bon 5 à 10 mm à tomber. 11 degrés ensoleillés pour samedi, 13 degrés alternance de soleil et nuages pour dimanche, donc des températures très clémentes et très belles pour aller jouer dehors ce week-end. Donc vraiment, c'est quelque chose de très positif, vous le savez, 418-971-101 pour nous joindre, la web radio sur blvd.fm, notre application sur blvd102.1 disponible gratuitement sur App Store, Google Play Store, notre page YouTube BLVD 102.1, allez vous abonner, et également avec le haut-parleur intelligent, vous dites écoutez BLVD 102.1 et on apparaît dans vos oreilles. On est en attente de faire le caucus avec Emmanuel Latraverse. On aura aussi Alicia Despins, Pascal CV, notre chroniqueuse politique municipale, tout à l'heure dans la première heure du show, parce que ça brasse pas mal, ça brasse entre le maire Marchand et le maire Junot.
Encore
là. Ben...
On sait plus que le maire Marchand ne trippe pas sur le maire Junot quand on
ben
les
oui!
écoute. Puis là, je veux pas mettre des mots dans sa bouche, mais c'est l'impression que ça me donne. Puis le maire Junot est un petit peu plus sur ses gardes quand t'as commenté. Mais on veut pas que ce soit une question de personnalité non plus, là. Mais clairement, ils travaillent pas ensemble main dans la main. Là. Ils s'inter-influencent pas, là.
Non, c'est pas juste une impression, là. Il a dit que Saint-Augustin, c'est un village.
Ouais. Mais il a pas dit le maire Junot, c'est un maudit. Mais...
Non. Mais,
mais il a dit, on peut pas comparer, mettons, des pommes avec des poires. Dans ce cas-ci, on semblait comprendre
exactement.
Ça,
exactement. Regarde bien, on va l'écouter, justement. On va écouter ce que le maire Marchand va dire. On va le faire réécouter tout à l'heure. Justement, là, à Alicia Despins, notre chroniqueuse politique. Oh, attends une minute, j'y arrive.
Un petit problème.
Ouais, mais là, je vais y arriver. Check bien. Et voilà.
Mais pour vous, vous avez pas vraiment besoin que je réponde à cette question-là?
Oui. Mais je vous la pose. Ben,
entre
parce
un
que...
village et une ville, ça ne gère pas pareil. OK? Si vous me comparez Saint-Augustin à Québec, puis vous me dites que c'est les mêmes défis à Saint-Augustin qu'à Québec, que c'est la même grandeur de ville, c'est la même quantité de rues, je sais pas ce que je peux vous dire pour faire la comparaison. Non?
Je vous dis pas que c'est la même quantité de rues. Ce que je vous dis, c'est que c'est
une température, 2,5, à peu près 2,5 % de la population de l'agglomération, on représente 95 % Je pense que les défis sont pas les mêmes.
On en parlait ce matin dans Marceau le matin, Pascal. Au prorata, il doit avoir le même nombre d'employés à Saint-Augustin qu'à Québec.
Faudrait le calculer, puis il faudrait le calculer avec les habitants, faudrait le calculer avec le nombre de rues. T'sais, il y a peut-être un petit quelque chose à faire là. Je déplore la façon dont il répond à Mathias. Je comprends que peut-être pour lui, la question, elle est stupide, mais la question, elle est quand même importante pour les citoyens. Ça reste des besoins essentiels là, dans la vie de tous et chacun, que les rues soient nettoyées, que ça se fasse le plus rapidement possible. J'aimerais ça avoir une conversation toute seule dans un genre de pièce avec Bruno Marchand pour comprendre qu'est-ce qui le fâche à ce point-là. Qu'est-ce qui lui donne envie de répondre aussi froidement?
Oui, pourquoi? Pourquoi s'en prendre à Saint-Augustin comme ça? Le maire Junot, on en a déjà parlé avec Alicia Despins, j'ai hâte de l'entendre tout à l'heure, mais elle avait dit qu'il est toujours sa fine ligne. Hein?
Oui.
Entre pas justement venir dire le maire Marchand fait ça de pas correct, mais regardez comment moi je fais bien. Et voici sa réponse ce matin. Il était avec nous à 7h30 dans Marceau le matin. L'entrevue complète est disponible sur le blvd.fm.
Juste corriger une chose, ça fait pas 3 semaines là, qu'on fait du nettoyage de rue, ça fait 5 semaines.
Ouais,
on a commencé à faire du déglaçage, là, pouvoir passer le balai de rue plus rapidement.
Ah, vous faites ça là-bas, vous autres?
Oui, on
enlève toute
la glace.
N'attendez pas que ça fasse.
Ben non, parce que ça permet justement des journées comme aujourd'hui, quand les puisards sont pleins de feuilles et de cochonneries, ça bouche, ça refoule, ça finit dans le sous-sol.
Ouais.
Puis le mandat d'une ville, ben, c'est de s'occuper des choses de base, dont pas d'eau dans le sous-sol, idéalement. Ça, c'est pas rêver, c'est travailler.
Pourquoi?
Les discours là, chez nous, là, c'est l'ouvrage qui compte.
Fait que tu vois, il attaque pas le maire Marchand directement, mais c'est pas des discours qui comptent, c'est le travail qu'on fait dans nos rues, comment qu'on nettoie le tout. Donc, par médias interposés, on se parle. On est dû pour une petite rencontre avec une bière, d'après moi.
Oui, puis, tu sais, j'aimais ce que Denis apportait depuis hier, là, en disant, y a-t-il quelque chose avec les conventions collectives? Puis je pense qu'on est rendu à le nommer. si jamais il y a quelque chose avec les conventions collectives, on est rendu à le nommer parce que là, ça nuit à l'image du maire marchand. Ça nuit à, je pense, l'appréciation citoyenne envers l'administration. Puis ça donne des situations comme celle où on répond super bêtement à un journaliste qui veut aller chercher des réponses. Je pense pas qu'on est qualifié comme étant de mauvaise foi à Boulevard 102.1. Je pense pas que c'est notre but non plus quand on fait de l'information, là, de devenir démagogue ou de pousser le bouchon, là, il faut pas. Fait que je pense qu'on a tout à gagner à travailler en interrelation, là, puis pas de cette manière-là.
En effet, il y a des auditeurs ce matin qui nous ont écrit qu'il y avait des cols bleus qui travaillaient hier soir à nettoyer les rues comme à Saint-Augustin,
à Québec.
À Québec, à Saint-Augustin, évidemment, le maire Junot m'a envoyé une belle photo encore hier pendant le match canadien.
Moi, mon copain habite là.
C'est ça.
En venant, t'avais la machinerie qui nettoyait encore.
En passant, il t'a envoyé un message, maman. Il a dit qu'il savait là, que c'était un gros nid de poule puis qu'il refait la chose.
Ce matin, ça.
Il leur disait
matin. Il m'a refait un clin d'œil.
T'avais
de prendre toutes les photos des nids de poule.
Yes. Hey, rapidement, Pascal CV, qu'est-ce qu'on retient dans l'actualité avant le caucus avec Emmanuel Latraverse?
Ben, c'est sûr, c'est une grosse semaine pour tout ce qui se passe au Palais de justice de Québec avec la mort de Maëline Lugé. La mère s'est prononcée, elle dit qu'elle n'a pas compris pourquoi les recherches ont été suspendues lors de la première nuit. Alors, on avait fait des recherches en journée. Ensuite, on avait cessé ces recherches-là. On les avait reprises le lendemain, cette fois-ci avec l'aide de la Sûreté du Québec. Donc, la mère, Céline Cossin, c'est hier qu'elle a témoigné pour cette enquête publique-là, présidée par le coroner Luc Malouin. Dans ce qui est mis de l'avant, c'est vraiment une incompréhension de comment est-ce qu'on a joué notre jeu policier, notre mission policière. Et le service de police de la ville de Lévis n'a demandé aucun renfort le soir de la disparition de Maëline Lugé. C'est ça qui retient l'attention de la journée d'hier. Et c'était lors du témoignage du sergent détective Pascal Bragagnolo, qui témoignait en ce troisième jour de l'enquête publique. On continue aujourd'hui dans tout ça. La situation, c'est quand même pas sans rappeler certaines failles qui avaient été identifiées dans l'opération policière autour de la disparition des petites Carpentiers en juillet 2020. Puis ça, on le nommait, toi puis moi, hier.
Oui.
J'étais sur le terrain à ce moment-là. Je l'ai couvert de A à Z, cette affaire-là. Puis tu le voyais même auprès des agents. Puis il y en a qui ont été mis au brancard là, pour avoir, juste réconforté des bénévoles. Et il y a eu plein de recommandations qui ont été faites par la suite sur comment est-ce qu'on devrait travailler ensemble dans les différents corps policiers. Puis on sent, en tout cas, ça a toute l'apparence d'être encore problématique.
Vraiment, tu as entièrement raison.
L'auteur de la tuerie de la Grande Mosquée de Québec, Alexandre Bissonnette, veut changer de pénitencier, c'est une demande qui a été faite. Il est à Port-Cartier en ce moment, c'est un centre de détention à sécurité maximale, puis il a demandé à être transféré vers un pénitencier à sécurité moyenne. C'est un document judiciaire qu'a consulté le Journal de Québec, puis on dit qu'obliger un individu dont la santé mentale est fragile à vivre dans un endroit où certains détenus n'ont rien à perdre et peuvent vouloir se faire un nom en l'assassinant fait pas partie du mandat confié au service correctionnel. Alors, c'est ce qui met de l'avant la requête de changement de pénitencier. Ça sera débattu au Palais de justice de Québec. Donc, Bissonnette pourrait faire une demande de libération conditionnelle en 2042, je vous le rappelle. Il y a aussi le TGV qui fait jaser aujourd'hui. La gare du Palais est pratiquement écartée. Donc, on n'ira pas de l'avant, si on comprend bien, là, pour le train à grande vitesse d'Alto du côté de la gare du Palais. Et c'est ce que Martin Imbleau, PDG d'Alto a confirmé, mais ce qu'on sait qui sera confirmé au maire de Québec, Bruno Marchand. Il y a une rencontre entre les deux hommes cet après-midi.
Par texto 418-971-109, vous êtes énormément à réagir sur le dossier Bruno Marchand. Continuez à interagir avec nous. Alicia Despins va être avec nous aux alentours de 12h40. Plusieurs personnes qui disent qu'ils trouvent le maire Marchand autant et son attitude depuis des mois va lui péter dans la face, selon certains. Donc, ça va être un dossier à suivre parce que, depuis sa réélection, là, il a pris une petite tangente. Denis Gravel, dans le pit stop ce matin, il disait c'est comme une petite tangente, la bombe, là, en fin de règne sur la ville de Québec qui a été prise du côté de Bruno Marchand.
Ça a pris des années avant que celle de la bombe apparaisse, puis ça déplut.
Exactement.
Il ne faudrait pas que ce soit aussi rapide et, si possible, non existant.
Exactement. Pour M. Marchand, c'est venu un peu rapidement. On passe au caucus.
Le caucus. Ce qui se passe autour de nous, ce qui influence nos vies, les vrais enjeux expliqués simplement. Emmanuel Latraverse vous les sert clair, net et précis dans Le caucus. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Le caucus avec Emmanuel Latraverse, c'est du lundi au jeudi sur les ondes de Boulevard 102 à l'émission N'en jase, de midi à 12h30. Et là, Emmanuel, t'as fait une découverte, toi, parce que tu t'es claqué toutes les pages de la mise à jour économique. Mais mon Dieu, moi qui pensais être le seul à lire des rapports le soir avant de marcher.
En vérité, c'est pas ça. Je m'en veux parce que sur le coup, au huis clos, ouais. Je l'ai pas vu passer du tout. Mais hier, j'écrivais une chronique sur le sujet, puis j'avais besoin des chiffres. Alors, je cherchais une table en particulier, okay. Où il y a toutes les colonnes de chiffres. Et là, je suis tombée sur quelque chose d'absolument magnifique. Tu vois, à la fin de chaque chapitre, là, les gens peuvent voir, là, il y a une table avec toutes les colonnes de chiffres. C'est comme ça qu'on voit combien on dépense, là, puis tout ça. Puis là, il y a une ligne qui m'a interpellée. Améliorer les services offerts à la population canadienne.
Ah, c'est quand même assez vague. Il y en a beaucoup de services. Alors, quel service veut-on améliorer?
Il n'y avait aucune page du livre qui nous expliquait c'était quoi. Hein? Puis, c'est pas peu dire, là, c'est 473 millions de dollars sur 5 ans.
Ah, ben c'est quand même un bon montant.
205 millions cette année, 184 l'an prochain. Puis là, en dessous, il y a un petit paragraphe en gris. Tu sais, ceux qu'on lit jamais.
Oui, oui.
Financement proposé à Emploi et Développement social Canada afin de soutenir les opérations quotidiennes de la nouvelle plateforme de la sécurité de la vieillesse.
Ah,
et d'accroître la capacité de traitement de la sécurité de la vieillesse pour veiller à ce que les personnes âgées reçoivent des prestations exactes et en temps opportun.
Les prestations en temps opportun, vieillesse. Moi, dans ma tête, ça sonne CURAM. Je me trompe-tu?
Ben, tu te trompes pas, mon cher ami!
Donc là, on a besoin encore de l'argent de CURAM alors qu'on est passé de 1,5 milliard à peu près 6,6.
On est en train d'essayer de démêler les chiffres. Là. Tout le 473 millions ne sert pas à CURAM. Il y en a une partie qui va à l'Agence de revenus du Canada pour conserver l'effectif d'argent dans les centres d'appel.
Ah, d'accord.
Okay, bon, donc,
parce que tout le monde sait...
Il y en a à peu près la moitié qui va, qui va aller à CURAM. Puis ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que, tu te rappelles, ça fait des mois que le gouvernement dit qu'il n'y a aucun problème avec CURAM.
Ben oui, ça roule super bien.
Ça fait des mois que le gouvernement dit que c'est même un modèle historique.
Le leader Stephen McKinnon a parlé de ça comme une grande réussite.
Une grande réussite et que quand on évoque le fait que le budget de 1,7 milliard de dollars a explosé jusqu'à 6 milliards et que encore là, les gens ont des problèmes, la ministre Patty Hajdu dit non, les gens n'ont qu'à appeler, ils auront un service dans 24 heures. Ben, pour réussir à avoir ce service dans 24 heures, ouais. Il semble que ça coûtera au moins là, à peu près 200 millions de dollars. Alors, on repassera pour la transparence. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en le mettant comme ça dans une ligne assez absconce, là, il faut... C'est vraiment un accident là, que je sois tombée dessus. Sinon, on n'en aurait jamais parlé.
Mais bravo d'être tombé dessus par accident.
Ça illustre qu'il n'y aura pas de débat aux communes sur si on devrait vraiment dépenser plus d'argent là-dessus.
Ouais.
Il n'y aura pas une enquête parlementaire sur les dérapages de ce truc-là, parce que maintenant, M. Carney est majoritaire. Donc, on s'entend que comme dans son esprit, il n'y a pas de problème, il n'y aura pas d'enquête. Puis, ce qui va arriver, c'est que le 473 millions de dollars pour améliorer les services aux Canadiens, ça risque de passer dans un bill omnibus qui va contenir toutes les autres mesures du budget, dont le crédit de TPS et tout le reste. Et ça va passer comme une lettre à la poste. C'est une belle leçon sur comment les gouvernements réussissent à faire passer en douce, je dirais, des dépenses quand même importantes, mais qu'on préférerait soustraire dans les faits à l'examen public. Alors, je sais que le Bloc québécois est sur le dossier. On a hâte de les écouter et de voir ce qu'ils vont en dire.
Bien, justement, on écoute Alexis Deschênes, leader adjoint parlementaire pour le Bloc québécois, ce matin à l'émission de Mario Dumont sur LCN.
Et on se dit, dans le cas de CURAM, ce que ça prend, c'est une enquête publique et indépendante pour qu'on dise, wow, on va regarder, il y a vraiment un problème. On est peut-être otage d'une compagnie informatique. On est assurément mal défendu par les gens en position d'autorité qui signent des chèques après chèque après chèque puis qui acceptent des dépassements de coûts alors qu'on a 85 000 aînés qui ont soit qui ne reçoivent pas leur pension vieillesse ou soit qu'ils le reçoivent sans l'avoir commandé. Alors, ce qu'il faut, c'est une enquête publique et indépendante.
Je comprends qu'on est en gouvernement majoritaire, Emmanuel, mais en gouvernement majoritaire, la CAQ, avec la pression, n'a pas le choix d'aller en enquête publique pour sa clique. J'ai l'impression que Mark Carney n'ira jamais, cependant, tellement il est haut dans les sondages à l'heure actuelle.
Ben, c'est même pas ça. Je veux dire, le scandale Phoenix, s'il y en a un enjeu qui aurait mérité une enquête publique, c'est bien celui-là.
C'est même, trop vrai.
C'est même pas réglé encore à ce jour. Il y a encore des fonctionnaires qui ont des problèmes sur leur paye. Arif Khan, la seule raison pour laquelle on avait eu une forme d'enquête, en guillemets, c'est parce que le gouvernement Trudeau était minoritaire et c'était donc une enquête parlementaire. Ça fait partie des avantages d'être majoritaire, c'est que quand t'es pris avec des scandales, des trucs, etc., ben, tu peux t'assurer là, que ça ne devienne pas un presto absolument insupportable. Je te dirais que la grosse différence aussi, c'est que à Ottawa, comme il y a ça couvre le pays en entier, ça couvre 10 provinces avec 10 priorités, préoccupations différentes, c'est rare qu'un enjeu réussisse à faire l'unanimité de l'opposition. Et est-ce que, par exemple, il y aura un rapport de la vérificatrice générale sur le sujet qui, lui, sera dévastateur et qui, lui, forcera la main du gouvernement? C'est généralement la voie que ça emprunte à Ottawa pour réussir à avoir vraiment des changements et ce genre d'enquête là, sur ces dossiers-là.
En effet, c'est un peu ce qu'on avait vu également avec sa clique. Bon, mise à jour économique, tu as épluché tout le document.
Mais oui, c'est pour ça que j'ai trouvé les fameux chiffres.
Exactement. Tu en es arrivé avec une super bonne chronique ce matin que j'ai lue avec attention. Mais avant justement qu'on parle de ta chronique, je veux te faire entendre Pierre Poilievre, sa réaction à la suite de la mise à jour économique, parce que vous êtes pas mal dans la même thématique.
Pour vrai, à part des illusions, qu'est-ce qui a vraiment changé après un an des libéraux de Carney? Mais le déficit a doublé, deux fois plus élevé que celui laissé par Justin Trudeau. Mais à part de ça, qu'est-ce qui a changé? Plus de coûts, plus de taxes, plus de dettes, plus sur le carte de crédit. Mark Carney, c'est juste un autre libéral.
Mark Carney, juste un autre libéral. C'est pas mal le sujet de ta chronique, Emmanuel. Vas-y donc.
Moi, j'irais pas jusqu'à dire qu'il y a rien qui a changé et que ce ne sont que des illusions.
Parfait.
Moi, je reconnais l'effort du gouvernement Carney de doter l'État canadien des leviers et des mécanismes pour stimuler l'économie à travers des gros projets. T'sais, qu'on recommence dans ce pays à faire des grosses affaires. Puis je ne parle pas de brasser des dés, là, je parle de grandes infrastructures qui vont vraiment permettre d'améliorer notre productivité, de faire de la richesse, que ce soit à contre-cœur, le port de Churchill, la route McKenzie, un nouveau pipeline, tous ces trucs-là. Là. Et moi, je ne suis pas allergique à tout déficit. Je comprends la logique du gouvernement selon laquelle il y a une partie du déficit actuel, parce que le gouvernement Carney a quand même doublé le déficit, là.
Oui, en effet.
Qu'il faut voir comme un investissement, OK?
Moi, je suis d'accord avec toi.
À terme, correct. Le problème, cependant, c'est que tu te ramasses avec une situation comme cette année, où les rentrées d'argent sont plus élevées, mais pas seulement pour l'année 25-26, qui est l'année fiscale qui vient de se terminer, mais dont les prévisions sont plus élevées pour les années à venir. Ce qui veut dire que techniquement, le gouvernement se vante d'avoir réduit le déficit de 11 milliards de dollars pour l'année qui vient de se conclure très bien. Mais dans les faits, il aurait pu réduire le déficit pour toutes les autres années de son cadre financier. De 15 milliards, de 12 milliards, de 13 milliards. Il y a une époque, par exemple, sous Paul Martin, qu'on avait décidé que réduire le fardeau de la dette, c'était une priorité. C'est ce qu'aurait fait Paul Martin, par exemple.
Ouais.
Là, M. Carney est plus progressiste. Il aurait pu dire « je vais y aller 50-50 ». Mais non, dans les faits, toute la marge de manœuvre qui est générée, ou presque, tu sais, comme les plus des deux tiers de la marge de manœuvre qui est générée, il l'a réinvesti dans des congés TPS, etc., etc., etc. Donc, puis ça, ça a un coût dans la vie, tu sais. Puis l'exemple le plus simple à donner à monsieur et madame tout le monde, c'est l'enjeu des frais de la dette. Comparé aux frais du réseau de la santé. Puis là, je ne veux pas me tromper dans mes chiffres. Alors, tu vois, cette année-là, 25-26, 54,7 milliards de dollars le gouvernement donne en transfert à la santé aux provinces.
Okay.
Les frais de la dette sont 54 milliards.
Aïe,
l'an prochain, ça s'inverse. 26-27, le gouvernement donne 57,4 milliards en santé. Les frais de la dette vont être plus élevés à 58,7.
Hey, ça, c'est catastrophique, Emmanuel, quand on regarde ça.
Si tu projettes dans le temps, là, juste pour vraiment donner une crise cardiaque, en 2030-2031, le gouvernement va transférer 67,5 milliards en transferts en santé aux provinces. En 2030-2031, les frais de la dette, t'es-tu assis, vont s'élever à 80,9 milliards de dollars.
OK, là, je viens de tomber, donc, je suis debout.
Donc, l'enjeu, c'est que c'est vrai qu'il y a une part des déficits qui est un investissement, mais c'est pas gratuit, ça. Puis, à terme, ce que ça veut dire, c'est qu'on a quand même un réseau de la santé qui est sous tension au Canada. On a un vieillissement de la population, il y a des transformations technologiques à faire. Et parce que le gouvernement préfère dépenser tout de suite pour cultiver ses clientèles, les familles, les travailleurs, courtiser l'École bleue avec un gros programme sur les métiers spécialisés, il fait en sorte qu'en 2030-2031, il ne pourra pas venir renchausser le réseau de la santé.
Non, en effet.
Parce que la part du lion de l'argent va servir à financer la dette.
Juste
c'est là que
pour
finalement, il est plus libéral qu'il est banquier quand il fait ses choix politiques-là.
En effet, je suis clairement d'accord avec toi. Hey, t'as effleuré justement le fait... Hey, on va former des gens dans des métiers spécialisés. Et là, hier, les journalistes étaient impatients parce que, annonce de Christine Fréchette sur les PME, on voulait lui poser la question, coudonc, le fédéral, es-tu en train d'ingérer dans les compétences du provincial par rapport à ce programme-là de formation en construction? Voici sa réponse.
Pour ce genre d'entente-là, traditionnellement, on passe avec des transferts via le CPMT, la Commission des partenaires du marché du travail. Et je m'attends à ce que cette fois-ci, à nouveau, on utilise ces canaux-là, qui sont déjà bien établis. On a cette instance-là au Québec qui regroupe à la fois le patronat, les gens des syndicats, des universitaires également. Donc, la CPMT devrait être mise à contribution dans le contexte.
Si on se bat pas autant et on fait affaire, autrement dit, on redonne la responsabilité à la CPMT, c'est-tu parce qu'on sait que la semaine prochaine, on va avoir une belle annonce sur les infrastructures et on veut pas trop chicaguener ses compétences avec le Canada?
C'est légitime de penser. Et j'aurais accrédité cette thèse, mais je suis allée faire la recherche.
Ah ouais, donc?
Je pense que la raison pour laquelle, au sein du gouvernement Fréchette, on n'est pas monté aux barricades, c'est de un, on veut essayer de montrer un ton différent.
Exactement.
C'est certain que l'idée qu'on est sur le point de boucler certaines ententes, quand tu es sur le point de boucler certaines ententes de plusieurs milliards de dollars, tu ne prends pas une allumette pour aller mettre de l'huile sur le feu. Je suis d'accord. Cependant, il y a un autre enjeu, c'est que rappelle-toi que la main-d'œuvre, c'est un bras de fer perpétuel entre Ottawa et Québec. En particulier, parce que Québec tient à garder la mainmise là-dessus. Or, en 2019, le gouvernement Legault a conclu une entente avec le gouvernement fédéral sur la formation de la main-d'œuvre qui allait de 2017, parce que cette entente-là était échue, jusqu'en 2023. Puis devine qui l'avait négocié, cette entente-là?
Ça devait être Christine Fréchette, non?
Non, c'était
non, il
n'était
pas encore gouvernement. Jean Boulay, ah ben oui!
Du travail, mais qui est maintenant ministre des Relations
c'est
Québec-Ottawa, François-Philippe Champagne. Alors, et ce modèle-là, c'était pas un chèque sans condition comme pour les garderies, où Québec a pu prendre le chèque puis le mettre dans le fonds consolidé. Mais Québec prenait l'argent d'Ottawa, puis c'était juste engagé à le dépenser sur la main-d'œuvre. Tu sais, fait que c'est pas loin d'un chèque en blanc.
Non, non, ça. C'est ça.
Puis Québec s'engageait à ce que Québec rendre des comptes sur comment l'argent était dépensé. Tu sais, on a mis tant dans tel fonds, tel fonds. C'était les seules conditions qui étaient attachées. Ça a été très difficile à négocier, mais ça veut dire qu'il y en a un canevas pour s'entendre sur la main-d'œuvre. Quand Ottawa a des visées, puis des grands plans, puis des patentes, bien, Québec et Ottawa ont une entente qui peut facilement servir de canevas. Et donc, est-ce que c'est ça qui fait croire qu'on va être capable de s'entendre plus rapidement et sans... bras de fer spectaculaire, fort probablement. Donc, mais ça représente un test très important pour Mme Fréchette, parce que la réalité, c'est que cette fois-ci, elle ne peut pas obtenir moins que ce que Québec avait obtenu en 2019.
En effet. Et compte tenu que c'est les mêmes acteurs avec Jean Boulay, François-Philippe Champagne, puis qu'on a pas mal les mêmes visées que ça est bien, j'imagine que ça devrait bien se passer.
On espère J'imagine. Pour eux, en tout cas, et pour tous les travailleurs qui pourraient bénéficier quand même. Là, c'est surtout
ben oui.
L'idée, c'est de, c'est de créer un pont pour que les apprentis puissent finir leur formation puis obtenir leur carte de compétences. C'est ça qui est très... Il y a comme un nœud là, qui rend ça très difficile et qui explique le fait que plusieurs abandonnent en cours de formation.
Emmanuel Latraverse, ce fut un plaisir. J'espère qu'on va avoir l'opportunité de se reparler sur les ondes de Boulevard 102.1. Merci beaucoup d'avoir participé au caucus dans l'émission On en jase. C'était vraiment très, très, très plaisant de discuter politique avec toi.
Au plaisir, à plus.
Salut, merci. Emmanuel Latraverse, chroniqueuse politique, qui était dans l'émission On en jase, dans le caucus de midi à 12h30 du lundi au jeudi. Je le rappelle, Antonine Iaccarini sera de retour lundi prochain, pour ceux qui s'ennuient d'Anto. Un petit retour progressif, là, on va commencer par Zoom pour continuer à prendre soin d'elle à la maison. J'espère qu'elle va se faire un brushing pour nous autres, par exemple, Pascal.
Oh, franchement, tout en belle, en plus.
Je le sais, c'est pour ça que je suis ça. Et pour ceux qui écoutent Marceau le matin, non, elle n'est pas devenue Antonin.
Non, pas
Marceau
du tout.
Avait parti la rumeur.
Ça, c'est bien Marceau.
Ben, tu connais Yannick.
Je sais pas
Yannick.
C'est quoi le fun des animateurs de radio quand on est absent d'inventer quoi que ce soit, là.
Ah, je sais pas, c'est vrai.
Mais en même temps, c'est divertissant.
Ben, c'est ça. En même temps, ça fait jaser.
Quand... La seule chose, c'est que moi, dans le temps, je travaillais avec quelqu'un.
Ouais.
Puis l'animateur avec qui je travaillais avait dit que j'avais eu l'enfant d'un autre de nos collègues. Oh. Fait que là, j'étais partie comme accoucher, puis on n'en avait pas parlé.
Okay.
Il avait fait une grande pièce de théâtre en ondes, encore dans les recherches Google associées à mon nom.
Parce qu'elle s'est enceinte?
Enceinte de ce collègue-là.
Ah ben!
Les gens prennent ça pour du cash. T'as un petit problème.
Ouais, c'est ça. Faites attention. Ça sort des fois de la bouche de notre animateur du matin.
Oui, nous, on a le pire ici.
Qui est pas pire pour
ça. Suivi de pas très loin par Denis Gravel.
C'est ça. Pour ceux qui ne l'écoutent pas, ben c'est Yannick Marceau de 6h à 10h dans Marceau le matin. On s'arrête quelques instants à l'émission On en jase sur Boulevard 102.1. Par la suite, on fait un excellent bloc de nouvelles avec Pascal CV et on va parler de politique municipale avec Alicia Despins. Puis on va revenir à sa victoire du Canadien 3-2 hier.
Bien
le Canadien
sûr.
Est à un match de passer à la deuxième ronde des séries.
C'est ça, ton énergie, je la sens.
Et
là.
Ça, même si Cole Caulfield joue mal.
Pauvre le petit Cole Caulfield.
Pauvre le petit Cole Caulfield. On va en parler avec Alex Laramé. C'est tout ça qui suit à l'émission d'En jase sur Boulevard 102.
On en jase jusqu'à 14h.